Chapitre 12. Monsieur Camusot jouissait de son triomphe. Il tenait deux coupables, il avait abattu sous la main de la justice l'un des favoris de la mode et trouvé l'introuvable Jacques Collin. Il allait être proclamé l'un des plus habiles juges d'instruction. Aussi laissait-il son prévenu tranquille, mais il étudiait ce silence de consternation, il voyait les gouttes de sueur s'accroître sur ce visage décomposé, grossir et tomber enfin, mêlés à deux ruisseaux de larmes. « Pourquoi pleurer, monsieur de Rubempré? Vous êtes, comme je vous l'ai dit, l'héritier de mademoiselle Esther, qui n'avait pas d'héritier ni collatéraux ni direct, et sa succession se monte à près de 8 millions, si l'on retrouve les 750 000 francs égarés. » Ce fut le dernier coup pour le coupable. De la tenue pendant 10 minutes, comme le disait Jacques Collin dans son billet, et Lucien atteignait au but de tous ses désirs. Il s'acquittait avec Jacques Collin, ils s'en séparaient, il devenait riche, il épousait mademoiselle de Grandlieu. Rien ne démontre plus éloquemment que cette scène la puissance dont sont armés les juges d'instruction par l'isolement ou par la séparation des prévenus et le prix d'une communication comme celle qu'Asie avait faite à Jacques Collin. « Ah, monsieur, répondit Lucien, avec l'amertume et l'ironie de l'homme qui se fait un piédestal de son malheur accompli, comme on a raison de dire dans votre langage, subir un interrogatoire. Entre la torture physique d'autrefois et la torture morale d'aujourd'hui, je n'hésiterai pas pour mon compte, je préférerai les souffrances qu'infligeait jadis le bourreau. Que voulez-vous encore de moi ? Reprit-il avec fierté. Ici, monsieur, dit le magistrat, devenant roc et narquois pour répondre à l'orgueil du poète, moi seul ai le droit de poser des questions. J'avais le droit de ne pas répondre, dit en murmurant le pauvre Lucien, à qui son intelligence était revenue dans toute sa netteté. Greffier, lisez au prévenu son interrogatoire. Je redeviens un prévenu, se dit Lucien. Pendant que le commis lisait, Lucien prit une résolution qui l'obligeait à caresser M. Camusot. Quand le murmure de la voix de Coquart cessa, le poète eut le tressaillement d'un homme qui dort pendant un bruit auquel ses organes se sont accoutumés et qu'alors le silence surprend. « Vous avez à signer le procès-verbal de votre interrogatoire, » dit le juge. « Et me mettrez-vous en liberté ?» demanda Lucien, devenant ironique à son tour. « Pas encore, » répondit Camusot, « mais demain, après votre confrontation avec Jacques Collin, vous serez sans doute libre. La justice doit savoir maintenant si vous êtes ou non complice des crimes que peut avoir commis cet individu depuis son évasion qui date de 1820. Néanmoins, vous n'êtes plus au secret. Je vais écrire au directeur de vous mettre dans la meilleure chambre de la pistole. Y trouverai-je ce qu'il faut pour écrire ? On vous y fournira tout ce que vous demanderez. J'en ferai donner l'ordre par l'huissier qui va vous reconduire. » Lucien signa machinalement le procès-verbal et il en paraffa les renvois en obéissant aux indications de Coquart avec la douceur de la victime résignée. Un seul détail en dira plus sur l'état où il se trouvait qu'une peinture minutieuse. L'annonce de sa confrontation avec Jacques Collin avait séché sur sa figure les gouttelettes de sueur. Ses yeux secs brillaient d'un éclat insupportable. Enfin, il devint, en un moment rapide comme l'éclair, ce qu'était Jacques Collin, un homme de bronze. Chez les gens dont le caractère ressemble à celui de Lucien et que Jacques Collin avait si bien analysé, ces passages subis d'un état de démoralisation complète à un état quasiment métallique, tant les forces humaines se tendent, sont les plus éclatants phénomènes de la vie des idées. La volonté revient comme l'eau disparue d'une source. Elle s'infuse dans l'appareil préparé pour le jeu de sa substance constitutive inconnue. Et alors, le cadavre se fait homme et l'homme s'élance plein de force à des luttes suprêmes. Lucien mit la lettre d'Esther sur son cœur avec le portrait qu'elle lui avait renvoyé. Puis il salua dédaigneusement M. Camusot et marcha d'un pas ferme dans les corridors entre deux gendarmes. « C'est un profond scélérat, » dit le juge à son greffier, pour se venger du mépris écrasant que le poète venait de lui témoigner. Il a cru se sauver en livrant son complice. Des deux, dit Coquart timidement, le forçat est le plus corsé. Je vous rends votre liberté pour aujourd'hui, Coquart, dit le juge. En voilà bien assez. Renvoyez les gens qui attendent en les prévenant de revenir demain. Ah, vous irez sur-le-champ chez monsieur le procureur général savoir s'il est encore dans son cabinet. S'il y est, demandez un moment d'audience pour moi. Oh, il y sera, reprit-il après avoir regardé l'heure, à une méchante horloge en bois peinte en vert et à filet doré. Il est 4 heures à moins un quart. Ces interrogations, qui se lisent si rapidement, étant entièrement écrites, les demandes, aussi bien que les réponses, prennent un temps énorme. C'est une des causes de la lenteur des instructions criminelles et de la durée des détentions préventives. Pour les petits, c'est la ruine. Pour les riches, c'est la honte. Car pour eux, un élargissement immédiat répare, autant qu'il peut être réparé, le malheur d'une arrestation. Voilà pourquoi les deux scènes qui viennent d'être fidèlement reproduites avaient employé tout le temps consumé par Asie à déchiffrer les ordres du maître, à faire sortir une duchesse de son boudoir et à donner de l'énergie à Madame de Sérisy. En ce moment, Camusot, qui songeait à tirer parti de son habileté, prit les deux interrogatoires, les relut et se proposait de les montrer au procureur général en lui demandant son avis. Pendant la délibération à laquelle il se livrait, son huissier revint pour lui dire que le valet de chambre de Madame la comtesse de Sérisy voulait absolument lui parler. Sur un signe de Camusot, un valet de chambre, vêtu comme un maître, entra, regarda l'huissier et le magistrat alternativement et dit « C'est bien à Monsieur Camusot que j'ai l'honneur !»« Oui, » répondirent le juge et l'huissier. Camusot prit une lettre que lui tendit le domestique et lut ce qui suit. Dans bien des intérêts que vous comprendrez, mon cher Camusot, n'interrogez pas Monsieur de Rubempré. Nous vous apportons les preuves de son innocence afin qu'il soit immédiatement élargi. D de Maufrigneuse, I de Sérisy. Postscriptum, brûlez la lettre devant le porteur. Camusot comprit qu'il avait fait une énorme faute en tendant des pièges à Lucien, et il commença par obéir aux deux grandes dames. Il alluma une bougie et détruisit la lettre écrite par la duchesse. Le valet de chambre salua respectueusement. « Madame de Sérisy va donc venir ? » demanda-t-il. « On attelait, » répondit le valet de chambre. En ce moment, Coquart vint apprendre à M. Camusot que le procureur général l'attendait. Sous le poids de la faute qu'il avait commise contre son ambition au profit de la justice, le juge, chez qui 7 ans d'exercice avait développé la finesse dont est pourvu tout homme qui s'est mesuré avec des grisettes en faisant son droit, voulut avoir des armes contre le ressentiment des deux grandes dames. La bougie à laquelle il avait brûlé la lettre étant encore allumée, il s'en servit pour cacheter les 30 billets de la duchesse de Maufrigneuse à Lucien et la correspondance assez volumineuse de Madame de Sérisy. Puis il se rendit chez le procureur général. Le palais de justice est un amas confus de constructions superposées les unes aux autres, les unes pleines de grandeur, les autres mesquines, et qui se nuisent entre elles par un défaut d'ensemble. La salle des pas perdus est la plus grande des salles connues, mais sa nudité fait horreur et décourage les yeux. Cette vaste cathédrale de la chicane écrase la cour royale. Enfin, la galerie marchande mène à 2 cloaques. Dans cette galerie, on remarque un escalier à double rampe, un peu plus grand que celui de la police correctionnelle, et sous lequel s'ouvre une grande porte à 2 battants. L'escalier conduit à la cour d'assises et la porte inférieure à une seconde cour d'assises. Il se rencontre des années où les crimes commis dans le département de la Seine exigent 2 sessions. C'est par là que se trouve le parquet du procureur général, la chambre des avocats, leur bibliothèque, les cabinets des avocats généraux, des substituts du procureur général. Tous ces locaux, car il faut se servir d'un terme générique, sont unis par de petits escaliers de moulin, par des corridors sombres qui sont la honte de l'architecture, celle de la ville de Paris et celle de la France. Dans ses intérieurs, la première de nos justices souveraines surpasse les prisons dans ce qu'elles ont de hideux. Le peintre demeure reculerait devant la nécessité de décrire l'ignoble couloir d'un mètre de largeur où se tiennent les témoins à la cour d'assises supérieure. Quant au poêle qui sert à chauffer la salle des séances, il déshonorerait un café du boulevard Montparnasse. Le cabinet du procureur général est pratiqué dans un pavillon octogone qui flanque le corps de la galerie marchande et pris récemment, par rapport à l'âge du palais, sur le terrain du préau attenant au quartier des femmes. Toute cette partie du palais de justice est ombrée par les hautes et magnifiques constructions de la Sainte-Chapelle. Aussi est-ce sombre et silencieux. M. de Granville, digne successeur des grands magistrats du vieux Parlement, n'avait pas voulu quitter le palais sans une solution dans l'affaire de Lucien. Il attendait des nouvelles de Camusot, et le message du juge le plongea dans cette rêverie involontaire que l'attente cause aux esprits les plus fermes. Il était assis dans l'embrasure de la croisée de son cabinet. Il se leva, se mit à marcher de long en long, car il avait trouvé le matin Camusot sur le passage duquel il s'était mis, peu compréhensif, il avait des inquiétudes vagues, il souffrait. Voici pourquoi. La dignité de ses fonctions lui défendait d'attenter à l'indépendance absolue du magistrat inférieur, et il s'agissait dans ce procès de l'honneur, de la considération de son meilleur ami, de l'un de ses plus chauds protecteurs, le comte de Sérisy, ministre d'État, membre du conseil privé, le vice-président du conseil d'État, le futur chancelier de France, au cas où le noble vieillard qui remplissait ses augustes fonctions viendrait à mourir. Monsieur de Sérisy avait le malheur d'adorer sa femme quand même, il la couvrait toujours de sa protection. Or le procureur général devinait bien l'affreux tapage que ferait, dans le monde et à la cour, la culpabilité d'un homme dont le nom avait été si souvent marié malignement à celui de la comtesse. « Ah !» se disait-il en se croisant les bras, « autrefois, le pouvoir avait la ressource des évocations. Notre manie d'égalité, il n'osait pas dire de l'égalité, comme l'a courageusement avoué dernièrement un poète à la chambre, tuera ce temps-ci. » Ce digne magistrat connaissait l'entraînement et les malheurs des attachements illicites. Esther et Lucien avaient repris, comme on l'a vu, l'appartement où le comte de Granville avait vécu maritalement et secrètement avec mademoiselle de Bellefeuille et d'où elle s'était enfuie un jour, enlevée par un misérable. Au moment où le procureur général se disait « Camusot nous aura fait quelques sottises », le juge d'instruction frappa deux coups à la porte du cabinet. « Eh bien, mon cher Camusot, comment va l'affaire dont je vous parlais ce matin ?»« Mal, monsieur le comte, lisez et jugez-en vous-même. » Il tendit les deux procès-verbaux des interrogatoires à monsieur de Granville, qui prit son lorgnon et alla lire dans l'embrasure de la croisée. Ce fut une lecture rapide. « Vous avez fait votre devoir, » dit le procureur général d'une voix émue. « Tout est dit, la justice aura son cours. » Vous avez fait preuve de trop d'habileté pour qu'on se prive jamais d'un juge d'instruction tel que vous. M. de Granville aurait dit à Camusot, « Vous resterez pendant toute votre vie juge d'instruction. » Il n'aurait pas été plus explicite que dans sa phrase complimenteuse. Camusot eut froid dans les entrailles. « Madame la duchesse de Maufrigneuse, à qui je dois beaucoup, m'avait prié... » « Ah, la duchesse de Maufrigneuse !» dit Granville en interrompant le juge. « C'est vrai. Vous n'avez cédé, je le vois, à aucune influence. Vous avez bien fait, monsieur. Vous serez un grand magistrat. » En ce moment, le comte Octave de Beauvan ouvrit sans frapper et dit au comte de Granville. « Mon cher, je t'amène une jolie femme qui ne savait où donner de la tête. Elle allait se perdre dans notre labyrinthe. » Et le comte Octave tenait par la main la comtesse de Sérisy. « Vous ici, madame ? » s'écria le procureur général en avançant son propre fauteuil. « Et dans quel moment ? » ?»« Voici monsieur Camusot, madame, » dit-il en montrant le juge. « Beauvan, » reprit-il en s'adressant à cet illustre orateur ministériel de la Restauration, « attends-moi chez le premier président, il est encore chez lui, je t'y rejoins. » Le comte Octave de Beauvan comprit que non seulement il était de trop, mais encore que le procureur général voulait avoir une raison de quitter son cabinet. Madame de Sérisy n'avait pas commis la faute de venir au palais dans son magnifique coupé à manteau bleu armorié, avec son cocher galonné et ses deux valets en culotte courte et en bas de soie blanc. Au moment de partir, Asie avait envoyé chercher un fiacre. Asie avait également ordonné de faire cette toilette qui, pour les femmes, est ce qu'était autrefois le manteau couleur de muraille pour les hommes. La comtesse portait une redingote brune, un vieux châle noir et un chapeau de velours dont les fleurs arrachées avaient été remplacées par un voile de dentelle noire très épais. « Vous avez reçu notre lettre ?» dit-elle à Camusot, dont les vêtements l'étonnaient. « Trop tard, hélas, madame la comtesse, » répondit le juge, qui n'avait de tact et d'esprit que dans son cabinet, contre ses prévenus. « Comment trop tard ?» Elle regarda M. de Granville et vit la consternation peinte sur sa figure. « Il ne peut pas être encore trop tard » ajouta-t-elle avec une intonation de despote. Les femmes, les jolies femmes posées, comme l'était Madame de Sérisy, sont les enfants gâtés de la civilisation française. Si les femmes des autres pays savaient ce qu'est à Paris une femme à la mode, riche et titrée, elles penseraient toutes à venir jouir de cette royauté magnifique. Les femmes, vouées au seul lien de leur bienséance, à ce qu'il faut appeler le code femelle, se moquent des lois que les hommes ont faites. Elles disent tout, elles ne reculent devant aucune faute, aucune sottise, car elles ont toutes admirablement compris qu'elles ne sont responsables de rien, excepté de leur honneur féminin et de leurs enfants. Elles disent en riant les plus grandes énormités. À propos de tout, elles répètent le mot de la jolie Madame de Beauvan dans les premiers temps de son mariage, à son mari qu'elle était venue chercher au palais. « Dépêche-toi de juger et viens !» « Madame, dit le procureur général, Monsieur Lucien de Rubempré n'est coupable ni de vol ni d'empoisonnement. Mais Monsieur Camusot lui a fait avouer un crime plus grand que cela. Quoi » demanda-t-elle. « Il s'est reconnu, lui dit le procureur général à l'oreille, l'ami, l'élève d'un forçat évadé. L'abbé Carlos Herrera, cet Espagnol qui demeurait depuis environ 7 ans avec lui, serait le fameux Jacques Collin. » Madame de Sérisy recevait autant de coups de barre de fer que le magistrat disait de parole. « Et la morale de ceci » dit-elle. Et, reprit M. de Granville, en continuant la phrase de la comtesse et en parlant à voix basse, « que le forçat sera traduit aux assises et que si Lucien n'y comparait pas à ses côtés, comme ayant profité sciemment des vols de cet homme, il y viendra comme témoin gravement compromis. » « Ah, ça, jamais !» s'écria-t-elle tout haut avec une incroyable fermeté. « Quant à moi, je n'hésiterai pas entre la mort et la perspective de voir un homme que le monde a regardé comme mon meilleur ami déclarer judiciairement le camarade d'un forçat. Le roi aime beaucoup mon mari. » « Madame, dit en souriant et à haute voix le procureur général, le roi n'a pas le moindre pouvoir sur le plus petit juge d'instruction de son royaume. Là est la grandeur de nos institutions nouvelles. » « Moi-même, je viens de féliciter M. Camusot de son habileté. »« De sa maladresse !» reprit vivement la comtesse, que les accointances de Lucien avec un bandit inquiétaient bien moins que sa liaison avec Esther. « Si vous lisiez les interrogatoires que M. Camusot a fait subir aux deux prévenus, vous verriez que tout dépend de lui. » Après cette phrase, la seule que le procureur général pouvait se permettre, et après un regard d'une finesse féminine, il se dirigea vers la porte de son cabinet. Puis, il ajouta sur le seuil en se retournant, « Pardonnez-moi, madame, j'ai 2 mots à dire à Beauvan. » Ceci, dans le langage du monde, signifiait pour la comtesse, « Je ne peux pas être témoin de ce qui va se passer entre vous et Camusot. »